comment dire, de quoi se réjouir complètement, du 13 octobre au 12 novembre, les villes des musiques du monde, plein dans tout le Saint-Denis. On se quitte avec les Canzonieri Grecanico. Alors le titre, attendez que je retrouve mon petit papier de checklist, voilà. Le morceau s'appelle Tienim, et puis je voudrais aussi vous dire que, comment dire, la Cour suprême du Brésil a quand même pris la décision, elle a mis en évidence la garantie des droits autochtones prévus par la Constitution, ce qui fait que ça évitera de priver ces paysans brésiliens de leurs terres et les grands pôles, les grands lobbies du pétrole, donc allez bien se tenir. Et puis une belle information aussi, le grand et unique harpiste breton, il y a un bouquin qui va sortir, c'est Alan Stivell qui a fait sa biographie, donc ça s'appelle Stivell par Alan. La sortie officielle aura lieu le 29 septembre prochain. On peut trouver le bouquin à partir de ce moment-là, ça vaut peut-être 30 balles dans ces là. Et puis Alan est en train de nous concocter un CD live qu'il a sans doute enregistré plusieurs endroits, ou un concert, on ne sait pas. En tout cas, voilà, l'actualité de Stivell, c'est la sortie de son livre Alan par lui-même, le 29, et puis un live qui va sortir incessamment sous peu. Voilà, salut à tous, on vous laisse avec Thomas et ses invités, Thomas Dehaene, Thomas de Hambourg, pour La Tempête sur les Planches, une émission axée sur le théâtre. On se retrouve la semaine prochaine, enfin, Folkali, vous retrouvez la semaine prochaine avec Hervé, qui vous emmènera toujours en Irlande avec les comtés irlandais. Il fait le tour de l'Irlande par les comtés, il illustrera le comté de Derry, et après, il ira une séquence de nouveautés sur la musique celtique. Et nous, on se retrouve le 8 octobre avec des invités. J'ai lancé des invitations. Pour l'instant, j'ai pas de retour, mais en tout cas, il y aura toujours Folkali sur Radio Libertaire entre 12h et 14h tous les dimanches. Salut à tous, au revoir, à bientôt.
Dormi bellina, dormi animeggia mia. Minuto lo mio cuore come fa? Dormire non vuole pensando a te. E se non lo mio senno quando ria, camanche sti pensieri a te demando. Bellezze case in danno te mie sia, e cerco notte verdu e cutte degno. Como acqua quando chioe, carri in terra e già esestae. Tiego mie, pensieri e io penso a como stai, notte fermare cuore bello pianto. Piccina io non saggio come fai, ca manchi fiato mio non lo seguanto. Come mare ca fatia, come la sa terra so, io con te. Tieni me come fai, come sai, ca io caccio se te dai. Tieni me si speranza mia è morire per te, se guai non te sento e poi ancora nascere quando a te torno. E desiderio ma vivo se fa, e strazza lo mio petto e per ce non saccio, eppure la coscienza sa già lontana, tanto non pulia te sento. L'onda ferma quando trova, come casa arriva so, io per te. Tieni me come fai, come sai, dai, tieni me come sia, a te si speranza mia.
Et vous êtes sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Après Folkali, donc, Tempête sur les planches. sur la plus rebelle des radios. Vous trouvez les informations, bien sûr, sur radio-libertaire.org ou bien sur fédération-anarchiste.org et bien sûr à la librairie du Monde Libertaire au 145 de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, métro Bastille, Fille du Calvaire, République, etc.
Oh, bah, comment...
Bastille. Et nous sommes en direct sur ce beau dimanche, après Folgallier, donc Tempête sur les planches. Il est exactement 14h selon l'heure que nous avons dans le studio, qui n'est pas garantie exacte. Mais on y va pour Tempête sur les planches.
Si nous descendons la rue en chantant notre drapeau rouge dans le vent, c'est pas seulement c'est lointain, mais c'est qu'il est bien vivant. À la bourse, l'argent produit de l'argent, et pourtant le chômage s'étend.
Et ce sera une tempête en peinture.
Nombreuses à vos postes de CSS, j'entends, que la dernière fois. Il me semble vous reconnaître, quel auditoire sympathique et charmant.
Nous ouvrons la tempête sur les planches de ce mois de septembre. C'est peut-être la seule en ce mois de septembre 2023, mais au moins nous y sommes. Et on a la chance de saluer à Paris une artiste israélienne qui nous fait un spectacle absolument inclassable, Michael Sbironi, et on la présente aujourd'hui jusqu'à, je sais pas, on verra, jusqu'à 15 heures, autant qu'on a des choses à dire. Voilà. Je te salue. Bienvenue à Paris.
Merci.
Bienvenue à Radio Libertaire. Alors dis-moi, ça fait combien de temps maintenant que tu es revenu à Paris?
À peu près une grosse semaine, mais j'ai passé cette semaine à Charleville aussi, au festival de théâtre des marionnettes à Charleville. On a fait 3 représentations là-bas de carte blanche. Donc c'était super. Et là, je suis revenue dans Paris, dans laquelle j'ai habité il y a longtemps, et maintenant je suis là en visite, on peut dire.
C'est un grand bonheur de te retrouver, parce qu'on s'est croisé il y a longtemps, et à l'époque, je pense que tu étudiais, tu faisais déjà des spectacles, ou tu étudiais, je ne sais plus exactement, mais tu as une histoire avec Paris quand même.
J'ai ?
Tu as toute une histoire avec Paris.
Oui, j'ai une longue histoire avec Paris, bien sûr. Paris, c'était mon rêve d'enfance, et je suis venue ici pour faire mes études. L'école Lecoq, Marceau, Étienne de Croux, du clown, des marionnettes. J'ai goûté à tout ce que je pouvais goûter. J'ai vu énormément de spectacles, aussi avec toi. Beaucoup d'expos. Voilà, j'ai profité de cette richesse culturelle de cette ville. Des rencontres importantes qui ont eu lieu ici, qui ont marqué ma vie artistique.
Et voilà, donc on va pouvoir découvrir ton dernier spectacle, ton dernier opus, qui s'appelle Carte Blanche. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que ça s'appelle Carte Blanche? Est-ce que c'est parce que c'est la toile blanche du peintre
Plusieurs raisons. Oui, d'abord, je crois que l'image qui était avec moi dans ma tête pendant beaucoup d'années, avant que je n'ose peindre sur scène, c'était vraiment une image d'une grande page blanche que je mets sur scène et je ne savais pas encore, enfin, que j'ai dessiné dessus, mais je savais pas encore quoi, comment. Et aussi, je pense que la question que je me pose dans le spectacle, c'est est-ce que c'est possible de commencer une page blanche? Même si on part 3000 km de chez soi, même si on passe par plein de ateliers spirituels, processus psychothérapistes, etc. Est-ce que c'est possible pour une personne de couper, ou en tout cas d'échanger le cours des choses, et de ne pas porter toute sa vie, dans mon cas, le poids de la famille, le poids de la mort, le poids de tous ces morts et leur sang. Enfin, moi, quand on était en processus de création, je me suis retrouvée très souvent envahie de la couleur du sang, beaucoup de rouge, beaucoup de douleur, et j'en avais marre, même moi, je veux dire, de créer avec ces matières-là. Pourquoi toujours partir de cette histoire qui est la mienne, mais qui n'est pas la mienne, je ne l'ai pas choisie.
Il faut nous expliquer un petit peu tous ces morts, alors.
Tous ces morts, alors. Ouais. Bon, on a tous des morts, bien sûr, derrière nous. Mais je crois que dans mon cas, on a des morts. Enfin, j'ai regardé un petit peu en arrière. Je me suis dit, quand même, c'est étrange. Je crois que dans les 80 dernières années, dans ma famille en tout cas, et je ne sais pas ce qui s'est passé avant, il n'y a pas eu un seul mort qui est mort. Comme il faut, c'est-à-dire dans son lit, entouré de sa famille, âgé, après, je sais pas, une maladie ou quelque chose qui annonçait sa mort, qu'on pouvait se préparer. Il y a, tous les morts, c'était, bon, d'abord, je suis juif, donc bien sûr, il y a tous les morts qui sont morts dans le trou noir, comme on dit, de manière, pour eux, c'était inattendu. En tout cas, et pas naturel, bien sûr. Et ensuite, oui, quand je regarde mes grands-parents, mais tout le monde sont morts, et même, malheureusement, ça continue, sont morts de façon inattendue, de façon pas naturelle, par la nature du monde d'un enfant, une personne, pardon, qui est âgée, qui est malade. Non, les gens, ils sont morts jeunes, de plus en plus jeunes même, et même des enfants. Donc on n'a pas eu de séparation. Et un jour, je regardais ma fille, enfin un jour, pendant une période, et encore, j'ai des problèmes avec ma fille qui a 8 ans. elle a du mal à se séparer de moi. On a du mal à se séparer l'une de l'autre. Moi, c'est plus le contraire. C'est genre, vas-y, j'ai envie de m'échapper. Et elle, c'est non, 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 ne pars pas. Mmh. Et je me suis souvenu que moi aussi, j'étais pareil avec ma mère. Mmh. Et que maintenant, qu'après, je suis partie très, très loin. Justement, le contraire, la réaction contraire. Je me suis dit, j'ai pas envie que ça continue comme ça. De cette infusion hyper proche et puis après, hyper lointaine. Et je voulais changer ça, pour moi, en tout cas, et ma fille. Donc, je me suis dit, si je ferais un spectacle sur la question des séparations, peut-être que je vais réussir à changer quelque chose. Si je vais arriver à créer une page blanche, bien sûr que c'est pas possible, mais en moins qu'elle soit rose et pas rouge, et ben peut-être que je vais réussir à l'aider et à changer quelque chose pour l'avenir.
Bon. En tout cas, il faut bien dire que ce n'est pas du tout un spectacle sombre, c'est pas du tout une négociation avec des fantômes, c'est au contraire d'une vivacité totale. On est en plein dans la vie avec ce spectacle.
Oui, je pense que c'est la scène, c'est l'endroit pour moi, pour vivre les émotions les plus fortes. Et pour arriver dans ce que j'aurais aimé que la vie elle soit, je pense même en dehors du spectacle, c'est-à-dire ouais, très forte d'émotions, très forte d'événements, des surprises, des magies. Et c'est ça que j'ai envie de donner au public. On est là, on n'est pas là pour souffrir. J'ai pas du tout envie en tant que public. Je souffre énormément en théâtre, très très souvent. Et j'ai pas du tout envie que mon public y souffre. Je pense que le théâtre, il doit amener de la magie dans le monde et on peut raconter n'importe quelle histoire, même la plus tragique, avec beaucoup d'humour et de l'autodérision. Et c'est beaucoup plus agréable. Pourquoi souffrir ?
De toute façon, on n'a jamais vu nulle part un spectacle pareil.
Ah,
ça n'existe même
pas. C'est ce que je veux entendre. Tu peux le
c'est une chose là, ça n'existe même pas. On se demande. Parce qu'en fait, à la fois, bon, tu as fait le théâtre gestuel, tu l'as étudié, le théâtre, etc. Mais aussi la peinture, tu es peintre en même temps. Et c'est un spectacle totalement mais inclassable, où il y a de la peinture, du théâtre et du jeu, on ne sait quoi.
Merci de dire tous ces belles mots, et surtout que tu as dit que je suis peintre. Parce que au début, quand on a commencé ce spectacle, il faut savoir que c'était un secret que je dessinais. Je ne le racontais presque à personne, ça, je l'utilisais de temps en temps pour faire des sketchs ou pour faire des affiches, mais toujours très minimaliste, avec un trait de crayon. Je n'ai pas osé mettre la peinture. Et surtout, quand je mettais de la peinture, quand je dessinais chez moi, c'était la nuit, quand tout le monde dormait, et j'ai caché les choses. Je n'ai laissé personne rentrer à la maison s'il y avait une peinture par terre, dans le salon. Enfin, j'avais pas de studio encore. Et c'était vraiment que les gens les plus proches de moi, je leur dis, à un moment très spécial dans notre relation, est-ce que tu veux voir la peinture que je fais? Ben voilà, je vais te montrer. Et je montrais, et je roulais la chose, et je le remettais sous mon lit, vraiment. Et donc, quand on a voulu faire ce spectacle, ben, j'ai parlé de ça avec un directeur de théâtre avec qui on travaille souvent, et il m'a dit, c'est quand même un peu prétentieux, non? T'es pas peintre. Oh, alors là, c'est tout ce qui me manquait pour me casser. Mais heureusement, j'ai résisté et j'ai osé. J'ai acheté un bout de gros gros papier, comme j'y rêvais d'avoir, et on l'a collé sur le mur. Et j'ai dit au musicien avec qui je travaille, est-ce que tu pourras m'accompagner un petit peu? Je vais faire quelque chose. J'avais même pas de peinture, j'avais que des maquillages rouge et noir, c'est tout ce que j'avais. Et on a fait une impro, j'ai dessiné dans le concert, il m'a accompagné avec. Et j'ai tremblé, c'était vraiment très très dur pour moi de dessiner devant quelqu'un. Et enfin, finalement, quand c'était fini, il m'a dit que c'était hyper touchant, que c'était hyper beau, qu'en plus le dessin était hyper beau. Chose que c'était encore bouleversant. Alors, donc voilà, à partir de là, les robinets de peinture se sont ouverts. Il faut dire que je suis passée aussi par un stage de peinture. Bah, il y a plus de 10 ans en Inde. Et pour moi, c'était un peu la suite de mon voyage de clown, sauf qu'avec peinture. Donc ça, ça a beaucoup changé dans ma façon de dessiner. Et voilà, et on a travaillé pendant 2 ans, et ça a donné ce spectacle.
Ouais, bon, mais maintenant tu arrives ici à Paris, dans un théâtre, au théâtre Mouffetard, qui est voué à l'art de la marionnette. Et là, quand on voit que carte blanche, on se demanderait un peu pourquoi, parce qu'il y a certes quelques petites poupées de papier qui apparaissent à la fin, mais on peut pas dire non plus que c'est un spectacle de marionnette. De toute façon, c'est... as été à Charleville-Mézières, qui est un festival pour les arts de la marionnette, parce que tu as travaillé avant beaucoup avec les marionnettes, mais de toute façon, il n'y a pas de festival pour les spectacles de peinture. Ça n'existe pas, donc il faut bien aller quelque part
pas
avec
encore.
Ce spectacle. Et donc, ouais.
Pas encore, mais il y a plusieurs questions dans ta réaction. Déjà, je veux dire qu'il y en a de plus en plus, parce que c'est vrai que la peinture, ça a été souvent utilisé pour les performances. Et donc, souvent, les gens, ils pensent, ah, d'accord, tu dessines quelque chose un peu bizarre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ce n'est pas communicatif, tu dois faire une performance. Mais non, c'est un spectacle, ça raconte une histoire, même si elle n'est pas exactement linéaire, mais quand même, ça raconte, il y a une comédienne, enfin, c'est un spectacle de 1 heure, et ça communique, ça, c'est sûr que ça communique avec le public. Mais... Donc, c'est important pour moi cette différence entre le spectacle et la performance, parce que pour moi la communication avec le public est très importante et je suis là pour ça. Et aussi, par rapport aux marionnettes, oui, bon, d'abord, j'ai très peu utilisé, même dans le passé, des marionnettes classiques, ça m'attire pas trop. Ce qui m'attire, c'est de renouveler des genres, mais c'est vrai que là, ça va plus loin. Et j'ai remarqué, là, on a été, par exemple, au Festival Lutke en Slovénie, et il y avait plusieurs spectacles qui utilisaient des techniques de peinture de manière très différente, très, très différente. Et ça m'a touchée, c'était chouette de voir que ça touche d'autres personnes que moi. Moi, j'ai toujours pensé que tous les puppeteers, tous les marionnettistes, c'est leur goal. Enfin, c'est leur but, pardon, je mélange un peu l'anglais. C'est leur but de mélanger en fait l'art plastique et le théâtre, parce que moi je suis venue aux marionnettes par ce biais-là, en cherchant comment mélanger les deux choses que j'aime faire, et j'ai toujours cherché ça, j'ai essayé plusieurs fois, et on peut le voir dans d'autres spectacles. J'avais un spectacle avec la sculpture que j'ai sculpté avec la terre glaise, d'autres spectacles dans lesquels j'ai essayé de dessiner avec la terre, avec autre chose. Mais c'est vrai que c'est la première fois où j'arrive enfin à créer ce langage dont je crois vraiment que je l'ai cherché pendant tout ce temps, quoi, pendant 20 ans, même plus. Bon, par rapport aux marionnettes, c'est vrai aussi que le genre de théâtre de marionnettes, il est très vaste. On peut plus dire que c'est pas de la marionnette si c'est pas des vraies marionnettes qui parlent avec la bouche, une mappette ou autre chose, ou une marionnette à fil ou une marionnette à gaine. Enfin, il y a plein de sortes de marionnettes. Je pense que le théâtre des marionnettes, il est plus que ça. C'est un théâtre d'image, c'est un théâtre qui anime, qui... Et ça peut être que de la matière, ça peut être... c'est très très vaste, c'est très riche, c'est pour ça que c'est très créatif. Et c'est une place où chaque artiste peut faire vraiment son propre labo et inventer son propre langage. Enfin, il y a le théâtre d'objets. Moi, j'avais fait avant ça du théâtre de cuisine, avec des femmes qui cuisinaient leurs plats préférés, et petit à petit on a trouvé la poésie dans leur action et qui allait toujours avec l'histoire. On peut pas séparer l'action de sa poésie et de l'histoire des gens, et c'est la même chose que j'ai trouvé dans la peinture. Et dans ce spectacle précisément, moi je trouve qu'il y a pas mal d'animations, enfin d'images que j'anime, auxquelles je donne vie, qui deviennent mes vrais partenaires des peintures, mon père, à qui je donne l'opportunité de parler pour une fois dans sa maison, et ma fille et plein d'autres, ma mère, enfin toute ma famille, je leur donne l'opportunité de parler, je les crée, je leur donne l'opportunité de parler, d'échanger, voilà. Donc oui, c'est pas classique, mais Mais on a vu le classique, donc... Oui.
Mais alors, on peut aujourd'hui voir tes peintures, tes tableaux hein, sur ton site internet.
Oui, c'est vrai.
C'est foisonnant, c'est une sorte de, pour moi, une sorte de fauvisme, quelque chose qui jaillit, qui a une énergie incroyable.
C'est drôle.
Dans la peinture, et sur le plateau aussi, et puis il y a une combinaison qui est très étonnante, parce que tu portes une sorte de tablier, mais c'est pas un tablier, c'est une planche. Quelque part, une plaque, et sur cette plaque surgissent des portraits, des dessins, toutes sortes de choses. Et donc, bon, quelque part, tu te transformes toi-même en tableau vivant. En fait.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est très important pour moi, depuis toujours, de montrer sur scène ce qu'on ne peut pas voir dans la vie. De montrer ses tripes. Et dans ce cas-là, eh ben, j'étais obligée de trouver une façon comment montrer ce qui se passe à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous. Et ben, vu que je n'ai pas, je suis pas très technologique, je n'ai pas l'appareil de radio pour faire de la radio, donc j'ai trouvé comment faire de la radio avec le dessin et comment rentrer à l'intérieur de moi et montrer. Ouais. Sortir ça vers l'extérieur.
Je crois que c'est pour ça aussi que ça me plaît, parce qu'il y a ce côté très artisanal dans le spectacle. C'est un peu artisanal, comme ici, Radio Libertaire, tu vois.
Oui.
C'est aussi, tout est artisanal ici. Et artisanal, mais vrai.
Oui, bah, ça sert à rien de faire des choses pas vraies. Et j'ai besoin que sur les œuvres, il y ait un empreinte du doigt, tu sais, qu'on voit vraiment que quelqu'un est passé par là, que ce soit pas clean. J'ai vraiment du mal avec les œuvres pop art qui sont très très clean et propres et lisses. C'est froid pour moi. Ça peut être très beau, mais un œuvre d'art, je veux voir la personne qui était là. J'aime bien quand on voit vraiment le pinceau qui est passé. Et moi, dans mon cas, bah, j'utilise pas trop des pinceaux, j'utilise plus vraiment les mains, ou j'aime pas qu'il y ait quelque chose entre moi et le support. J'ai besoin d'y aller direct, ou alors vraiment j'utilise en direct le tube de peinture. Et oui, j'aime bien voir comment les différentes sortes de peintures peuvent raconter des différentes histoires. J'ai découvert qu'ils ont chacun son caractère. Il y en a un qui coule, l'autre qui se mélange bien avec les autres. J'avoue que quand je ferme mes yeux après une bonne période de dessin, bah, ce que je vois, c'est comment je vois des peintures qui se mélangent, comme des veines de sang aussi. Il y en a un qui rentre dans l'autre et qui fait sortir comme ça, comme des racines. Paf. Et j'adore ça, même dans la cuisine, quand on met quelque chose dans le lait, plaf, ça fait pareil, surtout du rouge. Donc, des différents caractères de peinture me permettent de raconter des différentes histoires de ma famille, et pas que de ma famille. Et ça me passionne. Et par rapport à mes dessins, je pense toujours que personne ne regarde mon site internet parce qu'il est vraiment jamais fini. Mais donc je crois que personne ne le regarde. Mais parce que moi je n'ose pas regarder. Mais je dessine avec beaucoup de.
Mais oui, mais tout le monde peut y aller. On peut y aller, on peut voir les tableaux, mais aussi les vidéos de tes différents spectacles. Alors c'est michalsvironi.com.
Michal, ça s'écrit M-I-C-H-A-L. Et c'est pas pour ça qu'on dit Michal, hein. Mais, moi, ce qui m'a été important aussi, ce qui m'est important, je pense que c'est un petit peu la spécialité que je suis en train de construire, c'est de se rendre compte, que le théâtre et l'art plastique peuvent mélanger, mais il faut faire super attention parce que il y a beaucoup de théâtres d'images, mais qui sont construits un peu comme des clips, qui sont que démonstratifs. Et c'est important pour moi de ce côté que le théâtre, c'est d'abord de l'action. Et on ne peut pas séparer. On ne peut pas juste montrer des choses. Ça devient hyper superficiel, boring, ennuyeux, non communicatif, vieux. Ça ne peut plus marcher. Il faut que ça évolue. Et dans l'évolution, il y a l'action. Et ça peut être l'action d'une peinture dans l'autre, qui change un personnage. Ça peut être quelque chose qui ont fait... Mais il faut qu'il y ait qu'il le fait avec nos mains, avec un ciseau, avec un autre papier, avec enfin il y a tellement de choses qu'on peut faire.
Il y a des choses un peu miraculeuses aussi. Il y a des tableaux, des portraits, des tableaux qui se mettent à parler. Oui. Et il y a des portraits de la mère, du père, qui, je sais pas, on te voit pas vraiment peindre, ça surgit quelque part. On est pris par surprise là quand on les voit du coup. Et ben une chose que je voulais dire, c'est que certes, ben on a dit c'est pas un spectacle propre, c'est pas un produit pur et bien fait comme il faut, etc. Il y a beaucoup de peinture, il y a les tubes, etc. Mais attention, c'est pas non plus un spectacle trash.
Non.
C'est pas non plus une orgie où on jette la peinture n'importe où, n'importe
comment.
Pas du tout. Non. Pas du tout.
Non, c'est très organisé. Je crois qu'un de mes spectacles les plus organisés. Il y a, je sais pas, 6 heures de préparation sans la lumière. C'est beaucoup parce que c'est construit sur les détails. Chaque chose doit être à sa place. Et chaque chose a sa raison et il amène vers l'autre et une autre et une autre. Et les choses comme ça, elles évoluent. De l'un à l'autre, et je pense que oui, c'est une très fine barrière sur laquelle je marche, parce que d'abord je pense que ça aide parce que je suis clown, donc j'arrive avec l'humour de contrôler que ça, il faut pas que ça se barre. On peut avoir la liberté seulement quand il y a quand même quelques limites. Ça c'est ce que je pense. Donc oui, je crois que c'est un spectacle duquel les gens ils sortent, ils me disent « Oh là là, j'ai pleuré et j'ai rigolé. » Donc ça, c'est, je suis contente quand ils disent ça. C'est mon but.
Et puis, il y a beaucoup de souvenirs d'enfance dans le spectacle, entre autres. Celui où tu es toute jeune et tu fais une sorte de spectacle que tu crées à la maison. Et ta mère est très furieuse parce qu'elle ne veut absolument pas que tu fasses un spectacle dans lequel tu parles de ta famille.
Oui.
Voilà. Mais le spectacle parle exactement de ça, de la famille, de quelque chose d'intime. Mais ça nous touche, nous tous, parce qu'on a tous un peu les mêmes histoires. Et c'est ça, c'est le vieux principe selon lequel plus tu vas vers l'intime, plus tu touches à l'universel.
Oui. C'est pas évident, hein, parce qu'il y a... Mais je suis contente que j'ai réussi à faire ça, que ça reste pas un truc privé à moi, sinon c'est vraiment de la thérapie pour soi. J'étais un peu inquiète parce que c'est vrai que dans le spectacle, je parle un petit peu de ma famille, donc je parle beaucoup de ma famille, mais je parle des coutumes juifs. Et je m'en suis même pas rendu compte quand on l'a créé, à quel point je suis juif. Ah! La bouffe, j'étais un peu inquiète avant de partir avec ce spectacle à l'étranger, mais finalement ça se passe très très bien, les gens ils rigolent, ils s'y retrouvent à fond, et voilà, comme tu dis, c'est la première fois où je me laisse être aussi, autant... transparente comme ça, c'est-à-dire sans couche qui me de histoire ou de détour qui éloigne un peu le personnage ou l'histoire de moi. C'est la première fois que je parle vraiment en tant que Michal. Avant, j'avais des personnages, ils avaient des accents, ils avaient des costumes. Là, c'est vrai, je viens comme je suis, quoi, au studio. Mes vêtements sont sales de peinture c'était pas un truc designed pour le spectacle, c'est vraiment des vêtements de travail. Et je me cache pas et je dis les vrais prénoms des gens. Et oui, c'est incroyable de découvrir à quel point les histoires qui sont avec nous depuis la toute petite enfance intéressent quelqu'un finalement. Et qu'ils ont du potentiel de devenir un spectacle.
Bon, donc les représentations ne commencent pas tout de suite, c'est à partir du 4 octobre, ça va aller jusqu'au 14 octobre au Théâtre Mouffetard, qui est dans la rue Mouffetard. Et on avait commencé cette tempête sur les planches en écoutant ceci. Et ensuite, on avait le Orient Express Moving Schnorrers. Voilà, ça doit être ça. Et c'est donc l'orchestre Klezmer et ça s'appelle The Family Danced. Bon, et maintenant le chanteur Jean-Marc Lebihan avec... attends, voilà, parce que Michal, elle avait fait un spectacle aussi sur l'histoire d'amour de ses grands-parents. Ouais, et voilà, donc Jean-Marc Lebihan avec deux vieux qui s'aiment encore.
Après avoir souffert et s'être fatigué dans une vie sans nom où rien ne fut gagné, il y eut des chagrins, des instants de bonheur, le reste n'était rien que l'envers du décor. Les enfants sont partis, ils ne sont plus les mêmes. Ils ne prennent plus le temps, le travail, les problèmes. Les vieux ne comptent plus, c'est un jouet usé, un pauvre souvenir ou une fleur fanée. De vieux qui s'aiment encore. Lui s'en va au travail, ça ne le change pas. Elle reste à la maison, ce n'est plus comme autrefois. Son ombre qui la suit lui parle du passé, mais qu'est-ce que le passé quand on n'est jamais né? Une vie de marmot, de loyer, d'impôts, enfin, c'est comme cela. Ils ont fait leur boulot, abandonnés de tous, presque au bout du rouleau. Ils continuent la route, une bosse dans le dos, de vieux qui s'aiment encore. Quand ils eurent du bon temps, ils l'ont payé très cher. Travail, travail, travail pour nourrir ta misère. Abrutis et perdus tant on les a saignés, leur vie qu'ils ont vendue ne fut jamais payée. Leurs deux corps démodés sont comme un hôpital. Quatre murs pour crever, paraît que c'est normal. Car s'il y a des gens riches qui font souvent la fête, il y a des gens qui meurent au fond d'une oubliette. De vieux qui s'aiment encore. N'y a-t-il pas pour eux quelque part un jardin, une petite maison, un morceau de terrain? Leurs yeux sont malheureux dans le gris HLM. Le chenil pour finir, c'est ainsi qu'on les aime. Sous les draps bien au chaud, quand les lumières s'éteignent, il la prend contre lui, la serre et la dépeigne. De pauvres mains ridées ruissellent de tendresse. Le bonheur de s'aimer apaise leur détresse. De vieux qui s'aiment encore. La nuit s'est endormie, les étoiles respirent, ils se sont enlacés au rythme des soupirs, leurs cheveux blancs mêlés dans le lit du passé. Leur vie est une galère, ils sont toujours ramés, de vieux qui s'aiment encore.
Ah si, c'est rouge.
Et allez, allez, Radio Libertaire 89.4, cette tempête sur les planches avec Thomas d'Hambourg. Donc, je reçois aujourd'hui Michal Svironi, qui vient à Paris avec son tout dernier spectacle, là, qui s'appelle Carte Blanche. Et bon, ça sera au Théâtre Mouffetard, on l'a dit, le Théâtre Mouffetard, dans la rue Mouffetard, 5e arrondissement à Paris. Et donc, Cette carte blanche, c'est un mélange de beaucoup de choses, et on y voit vraiment que Michal, tu es formé à Paris en théâtre gestuel, dans les écoles de, je sais pas, Jacques Lecoq, Marceau, etc. Et en plus, mais tu es aussi comédienne, je vais dire, tu nous donnes trois générations d'une famille sur le plateau. Et, tu n'es pas ventriloque, ça, non, mec. Il y a des marionnettes et tout, mais tu sais faire énormément de choses. Et puis la peinture, évidemment, qui vient dans ça aussi. Donc, maintenant, je suppose que c'est la première fois que tu fais, disons, la version française. Tu l'as joué en hébreu, en anglais. Là, c'est en français tout de même.
Oui, mais oui, exactement. C'est pas facile. C'était un challenge de le traduire. Mais finalement, j'étais assez étonnée. Ça a coulé assez facilement de moi. Il y a quelques scènes qui sont de langage plus poétique, donc j'étais obligée plus de faire attention. Mais sinon, c'est quand même un langage assez parlé dans le spectacle. Donc, c'est moi. Ça ressemble à comment je parle dans la vie. Donc, je connais le spectacle tellement bien. Je me demande si un jour je pourrais, parce que là par exemple on a une invitation pour aller en Espagne et il me dit les gens en Espagne ils parlent pas l'anglais et puis c'est compliqué avec des sous-titres parce qu'on veut voir, donc il me dit est-ce que tu pourrais apprendre en espagnol. Ça je suis pas sûre, ça va être, mais oui c'est venu assez naturellement et
On peut aussi l'apprendre dans une langue étrangère, hein, qu'on ne pratique pas.
Il y a des gens qui font ça. Mais moi, je n'ai jamais fait ça. J'ai déjà travaillé avec des comédiens qui parlaient dans une langue que je ne parlais pas et je les ai mis en scène. Mais moi-même, d'apprendre à parler d'un... je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux ou si j'ai envie de faire ça. Parce que... Ouais.
Mais en tout cas, ce qui me frappe aussi, c'est que quand je vois tes spectacles, celui-ci ou le précédent, je me dis, un homme jamais ne ferait un spectacle pareil. Ça parle beaucoup de féminité, il y a beaucoup d'images aussi du corps féminin, de vulve, de cordon ombilical, des choses comme ça qui apparaissent. Donc c'est aussi vraiment sur un fond de féminité qui s'affirme, et ça c'est intéressant aussi.
Oui, au début quand tu as commencé ta question, je pensais que tu allais dire un homme n'est jamais sur scène avec toi. Enfin, il n'y a jamais de personnage de homme. Et ça aussi, on me dit souvent, mais il est où l'homme? Il est où le père de la fille? Il est où Donc ça aussi, c'est vrai que je cache.
Il a son portrait et sa voix.
Il y a mon père.
Oui.
Mais il n'y a pas l'homme il n'y a pas de couple.
Oui.
Souvent. Il n'y a pas ça manque, et effectivement,
c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire, et le prochain spectacle, je vais essayer de le faire sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que ça me manque. C'est chouette d'entendre ça, parce que pour moi, la féminité, c'est pas quelque chose d'évident. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je travaille tous les jours presque, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas toujours donné. Enfin, ma mère, ma sœur, c'est pas des exemples de féminité pour moi. Et je crois que même la culture israélienne, elle est très rentre-dedans, comme on dit, très directe, très directif. Et c'est quelque chose qu'on me reproche souvent. Et en tout cas, ici, ouais. En Israël, je suis genre, mais pourquoi tu parles aussi doucement? Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident, et je suis ravie que ça sort. Je suis ravie que ça sorte, et c'est vrai que oui, c'est ça les histoires que j'ai à raconter. Peut-être justement parce que je n'ai pas été baignée dans une ambiance de féminité, de femme. On vit pas du tout dans un monde féminin, et du coup tout ces côtés et tous ces questionnements et même toutes ces images, ils restent à l'intérieur, et l'endroit pour les sortir, c'est...
Oui, mais c'est tout le rapport de la société au corps de la femme, que la société veut contrôler, posséder, autant que, bien sûr, si on te demande, mais pourquoi tu parles pas de ton compagnon ou de ton mari, machin, oui, on demande aux femmes de se définir à travers les hommes. Non. C'est ça qui est intéressant.
Je me définis suffisamment déjà via mon père, enfin, ouais. Et son caractère qui a quand même dégouliné de lui vers nous. Il a un caractère très fort, on peut dire. Et c'est tout l'inverse d'une féminité. Donc c'est sûr que c'est un truc par rapport aux cartes blanches dont j'ai envie de me débarrasser. J'ai pas envie de ce côté-là, même si je pense que souvent ça m'a protégée dans ma vie. Justement, aussi par rapport à tous ces mouvements MeToo et tout ça.
Il y avait encore plus dans ce sens-là, dans le spectacle qu'on peut voir aussi sur ton site internet. Là, on voit une vidéo d'un spectacle, un solo, dont le titre est « La femme qui respire trop ». Oui. Et une autre qui était, « La mère du dictateur ». Très intéressant, non, c'est des choses à découvrir, qu'il faut absolument découvrir. La mère du dictateur, ça me rappelle même la grande Ilka Schoenbein.
Ah oui.
Tu vois,
c'est plaisir.
Invention de marionnettes, de monstres, de formes, etc. C'est incroyable. Et justement, dans Page Blanche, moi je trouve que c'est aussi une histoire, une chose un peu que je mettrais du côté de l'art povera, quelque chose comme ça, où tu vois qu'est-ce qu'on peut faire, quelle merveille on peut faire avec juste trois bouts de ficelle, avec de l'imagination, avec du génie humain. Et tu n'as pas besoin de grandes technologies. Tu travailles avec du papier, de la peinture, et tu peux faire des choses incroyables.
Ouais. Ben, ouais, moi j'ai un petit peu. Bon, déjà, je suis très contente que le spectacle, même s'il est féminin, ça m'inquiète toujours si les hommes vont s'y retrouver. Et donc, à la fin du spectacle. Quand il y a des hommes qui viennent voir ou qui achètent ce que je vends, des t-shirts que je fais moi-même à la fin du spectacle. Donc, quand ils viennent, ça me rassure toujours parce que j'ai pas envie de me retrouver à faire justement un spectacle que pour les femmes. Et donc, ça, c'est bien quand on arrive à communiquer avec l'autre sexe aussi. Et que finalement, et aussi, par rapport à ce que tu viens de dire, je voulais faire une remarque, mais alors là, j'ai zappé. C'était quoi la fin? Tu disais quoi à la fin?
On va le réécouter tout à l'heure.
On va les réécouter et puis on va vous le dire. Non, mais c'est vrai. J'ai mon coupe, mon non, fil, non, le fil à couper.
Je trouve ça vraiment merveilleux de voir quel.
Ah oui, je sais, ça y est, je sais.
Tout ce que tu peux inventer avec. Oui. Bon, trois fois rien, quoi. Des matériaux tout simples.
J'avais un pour ce spectacle. Bon, d'abord, je n'aime vraiment pas la technologie sur le spectacle parce que à chaque fois que je vois des spectacles avec la technologie des amis et tout ça, souvent ils ont des problèmes techniques et des énormes problèmes techniques avant ou même pendant le spectacle. C'est un cauchemar. Ça d'abord. Et puis c'est vrai que pour moi c'est froid. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de voir le trait de la personne. Mais aussi, je pense effectivement qu'on a assez de ça dans la vie. Et que sur la scène, je me suis donné comme challenge, comme défi, de avoir rien, enfin presque rien de préparé. C'est-à-dire que tout est fait sur place, handmade, tu vois. Mm-hmm. Et que les gens ils voient le processus. Je crois que c'est un petit peu ce qui différencie encore le théâtre de cinéma, c'est qu'on peut voir comment les choses se font. On n'est pas en train de cacher et de tout nettoyer et dire regardez on a fait ça et vous savez pas comment. Non, au contraire, regardez, on fait ça et regardez comment. Et c'est le comment on fait qui est intéressant. Et ça fait partie de l'histoire, de ce qui se passe sur scène, comment on fait les choses. Je crois que c'est la magie, c'est ce qui nous reste comme magie du théâtre encore dans ce monde moderne qu'on doit développer et gagner de ça. De l'originalité et de la créativité.
Voilà, alors c'est du 4 au 14 octobre au Mouffetard, Théâtre Mouffetard, qui est, je crois, le Centre National de la Marionnette.
Oui.
Ah oui, donc on y revient à la marionnette. Mm-hmm. Et après, je voulais dire qu'il y a une chose quand même qui est étonnante, c'est que tu as un petit pays, en fait, Israël.
Oui, très petit.
Mais qu'est-ce qu'il y a comme artiste incroyable qui vient de là? Tu as en même temps au théâtre des Abbesses, là tu vas avoir à partir du 5 octobre le chorégraphe Adi Boutrous.
Ah bon?
Avec sa nouvelle pièce.
Ah,
qui travaille sur l'histoire de l'art. On a eu là il y a quelques semaines, il y a pas longtemps du tout, on a vu Amit Noy, qui est aussi israélien, qui travaille sur son histoire familiale aussi, Et ce sont des choses fortes, mais percutantes. Les artistes qui viennent d'Israël ont des langages qui frappent, quand même. Ah, c'est étonnant de voir ça. Et puis, voilà, moi, je suis surtout autour de la danse, donc il y a énormément de chorégraphes comme Sharon Eyal, etc. Tout ça, c'est des uppercuts qui viennent.
Oui, ben, je suis fière de ça, parce que c'est vraiment notre génération qui a réussi à sortir et à décider que, pas comme la génération d'avant, enfin, qui avait aussi, bien sûr, des super artistes, mais il y avait quand même moins. Notre génération, elle est, c'est la création, c'est un truc qui vraiment, qui fleurit, quoi, dans toutes les rues, partout. Et je crois que c'est vraiment parce qu'on avait un manque à notre enfance de ça. Et nos parents, ils étaient en train de survivre, de construire de ce pays et de le faire vivre. Chose qui est toujours pas gagnée. Je crois que tous ces questionnements, la frustration, les peurs, enfin, et notre, bien sûr, notre histoire, ben, c'est des choses fortes qu'on peut pas ignorer. Ça donne de la matière, malheureusement, de manière négative, mais qu'on peut transformer en positif. Et c'est ça le rôle des artistes dans la société, je crois.
Bon, on n'a pas à faire la liste des comédiens, parce que c'est un solo avec Michal Svironi. Mais dans Carte Blanche, il y a aussi de la musique. Tu peux nous dire quelque chose sur la musique?
Alors, la musique, elle a été créée par Yon Ital, qui est mon partenaire, avec qui on a coécrit ce spectacle aussi. Il était les yeux et les oreilles... qui m'ont aidé pendant tout ce processus de création. Et avec lui, on fait la tournée aussi, il fait le son, la lumière, et on est des super copains. Et par rapport à la musique, j'ai une anecdote super jolie qui s'est passée pendant qu'on hésitait par rapport à... Il y avait un moment pour lequel c'était difficile de trouver exactement vraiment le moment de la fin. On avait une image magnifique et on n'avait pas trouvé la musique qui correspondait exactement à ce qu'on a imaginé. Parce que c'était le moment du Covid. On était, c'était hyper compliqué de travailler, de trouver des musiciens pour enregistrer, etc. Et mon studio, il était à Tel Aviv, dans une espèce de petite rue, ruelle, pour que personne n'arrive. C'est vraiment derrière des magasins de légumes, enfin un truc vraiment où il n'y a personne qui arrive, quoi. Et un jour, on est là en train de se casser la tête sur cette musique, et parce qu'on se faisait aussi accompagner par le festival Teatro Netto à Tel Aviv, et on avait d'autres personnes qui écoutaient, qui disaient « Non, c'est pas ça ». Bref, on est là, et on se dit « Il nous faut une voix ». Et je dis « Oui, il nous faut une voix angélique, comme mon grand-père qui chantait à la synagogue, quelque chose de un petit peu comme Doudou Fischer, si vous connaissez, un truc et paf, rentre dans le studio un mec. Il dit « C'est quoi ça ici ?» Comme tout le monde, ceux qui passent, ils sont « C'est quoi? C'est de la peinture? C'est que ça ?» On dit « Non, on est en train de répéter un spectacle. Et toi, tu fais quoi ?»« Ben moi, je chante à la synagogue. » Mais c'est un grand, grand chanteur qui chante à la synagogue, mais on va pas dire à la petite synagogue. C'est un des plus grands chanteurs lyriques qu'il y a en Israël. Bon, on le connaissait pas parce que c'est pas notre univers. Et ben, on lui a dit, alors, tu veux enregistrer avec nous? Et il fait, bah oui. Et puis, du coup, c'est sa voix dans le spectacle qu'on entend. Et j'avais l'impression que vraiment, il est venu du ciel. C'est dans des moments comme ça où tu dis, ah ouais, on est dans la bonne direction. On fait quelque chose de juste. L'univers est avec nous.
Oui, moi je pensais aussi au piano.
Oui, le piano, on ne l'a pas trouvé dans la rue. Il n'est pas venu. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par rapport au piano?
Non, mais elle est très belle, la musique.
Oui, tu aimes bien.
Très belle. C'est une dimension aussi, on n'a pas encore parlé, bien sûr, c'est très visuel. Il y a ta présence, tous tes échanges avec le public. Mais la musique est aussi une composante forte.
C'est très important dans un spectacle très visuel. Ben, c'est hyper important que la musique sera au niveau, quoi. Qu'il aille avec les images, qu'elle complète ce que les yeux voient. Et Yoni, ben, on a beaucoup travaillé pour que ça se passe comme ça. Il a été nominé avec le spectacle et la comédienne et plein de choses pour un prix en Israël, du théâtre. Donc... Oui, on en est content et c'est à chaque fois que le spectacle commence, qu'on entend cette musique, pour moi, c'est devenu vraiment la musique de ma famille, quoi. C'est
bon, mais j'espère que tu vas, dans les années qui viennent, beaucoup présenter ce spectacle en France, que un maximum de gens puissent le découvrir. Donc, c'est à partir du 4 octobre au théâtre Mouffetard, dans la rue Mouffetard, à Paris. Donc, merci beaucoup
d'être venu
dans Tempête sur les planches. Bon.
Et que tu m'as invité ici. Merci, voilà, que tu me suis depuis des années.
De la musique, ici, sur La Voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste.
Sortent de l'œuf, du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Quand les 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, mieux qu'on déneige longtemps. Vous les connaissants, les cons innocents, les jeunes cons, qu'ils ne niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message, l'un qui balance entre les âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Quand les 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Prenez racine sous la coiffe de Bécassine. Ceux qui cherchaient la toison d'or ailleurs avaient bigrement tort. Tous les seigneurs du voisinage, les gros bonnets grands personnages, rêvaient de joindre à leur blason une boucle de sa toison. Un champ de blé prenait racine sous la coiffe de Bécassine. C'est une espèce de robin n'ayant pas l'ombre d'un lopin qu'elle laissa pendre vainqueur au bout de ses accroche-coeurs. C'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant à chanter la chanson des blés d'or en toute saison. Et jusqu'à l'heure du trépas, si le diable s'en mêle pas.
D'antan, petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges longtemps. Longtemps. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges longtemps.
Cette petite histoire ne nous arrive pas à nous. L'ancêtre.
Notre voisin, l'ancêtre, était un fier galant qui n'emmerdait personne avec sa barbe blanche. Et quand le bruit courut que ses jours étaient comptés, on s'en fut à l'hospice afin de l'assister. On avait apporté les guitares avec nous, car devant la musique, il tombait à genoux, excepté toutefois les marches militaires, qu'il écoutait en se tapant le cul par terre. Qu'il écoutait en se tapant le cul par terre. Disciple de Django et mule de Crolla, toute la fine fleur des cornes était là pour offrir à l'ancêtre en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime audition. En guise de viatique, une ultime audition. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus.
Les guitares sont restées à la porte cochère. Et le dernier concert de l'ancêtre déçu, ce fut un pot pourri de cantiques peu chères. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, pas de musique d'orgue, oh non. Pas de chant liturgique pour qui avale sa chic, mais les guitares craignent le nom. Mais les guitares craignent le nom. On avait apporté quelques litres aussi, car le bonhomme avait la fièvre de Bercy. Et les soirs de Nouba, parole de tavernier, à rouler sous la table, il était le dernier. À rouler sous la table, il était le dernier. Saumur, entre deux mers, Beaujolais, Marsala, toute la fine fleur de la vigne était là pour offrir à l'ancêtre en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime libation, en guise de viatique, une ultime libation. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus. Les litres sont restés à la porte cochère, et le coup de l'étrier de l'ancêtre déçu, ce fut un grand verre d'eau bénite peu chère. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, ne nous faites pas boire au nom de ces eaux minérales, bénites ou lustrales, mais du bon vin craignant le nom. Mais du bon vin craignant le nom. On avait amené les belles du quartier, car l'ancêtre courait la gueuse volontiers, de sa main toujours leste, mais digne cependant. Il troussait les jupons par n'importe quel temps. Il troussait les jupons par n'importe quel temps. Depuis Manon Lescaut jusque à Dalila, toute la fine fleur du beau sexe était là pour offrir à l'ancêtre en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime érection, en guise de viatique, une ultime érection. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus. Les belles sont restées à la porte cochère, et le dernier froufrou de l'ancêtre déçu, ce fut celui d'une robe de sœur peu chère. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, pas d'enfant de Marie, oh non. Remplacez-nous les nonnes par des belles mignonnes, et qui fument craignant le nom. Et qui fument craignant le nom. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer des dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage, par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois. Allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes les paratonnerres, à foison que Nan as-tu planté sur ta propre maison. Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, entra dans ses foyers faire sécher son mari en me donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait l'affaire, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emporté vers les cieux toujours bleus, les pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
On parlait de Toulouse, mais à Toulouse est né un type rare, un type cher, qui m'a dit il n'y a pas longtemps, entre nos deux verres de lunettes, « Georges, cette chanson de Georges Brassens, vois-tu, elle se prête, elle s'apprête à l'universel. Elle se prête donc à toutes les voix, et c'est par cette voix sacrée, Georges, que tu vas trouver la plume d'ange qui manquait à ton masque sorcier. Yeah. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin perdu contre un coin parapluie, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin perdu contre un coin parapluie, je ne perdais pas au champ, je perdis. Chemin faisant, que ce fut tendre, doux, oui, radeux, le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sous le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. Un petit coin paradis entre un coin parapluie, elle avait quelque chose d'un ange. Oh, un petit coin paradis entre un coin parapluie, je ne perdais pas au change, pardis. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers les pays. Bientôt le ciel fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie,
elle avait quelque chose, bon ange, un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, je ne perdais pas au change Paris.
Quand Georges Brassens nous a quittés, je dirais provisoirement, il a laissé derrière lui un certain nombre de chansons qu'il n'a pas eu le temps matériel d'enregistrer lui-même. Et Le Pêcheur fait partie de cette série. Le Pêcheur à la ligne. Quoique.
On dirait un fanatique de la cause halieutique avec sa belle canne et son moulinet. Mais s'il pêche, c'est pour rire. Et l'on peut être certain que jamais sa poêle à frire vit le plus menu fretin. La pêche à ce qu'on raconte, pour lui n'est en fin de compte qu'un prétexte, un alibi. On connaît pis un truc, un moyen plausible de fuir un peu son chez-soi, où sévit la plus nuisible, les maritornes qui soient. Avec une joie maligne, il monte au bout de sa ligne tout un tas d'objets divers, des bouts de fer, des paillassons, des sandales, des vieilles chaussettes à clous, les noyés faisant scandale aussitôt qu'on les renfloue. Si déçu par une blonde, pensant faire un trou dans l'onde, tu tiens plus à te noyer qu'à te mouiller. Désespéré, fais en sorte d'aller piquer ton plongeon, de peur qu'il ne te ressorte à l'écart de son bouchon. Quand un goujon le taquine, qu'un gardon d'humeur coquine se laisse pour badiner à me sonner, le bonhomme lui reproche sa conduite puérile, puis à sa queue il accroche un petit poisson d'avril. Mais s'il attrape une ondine, une de ces gourgandines, femme mi-chair, mi-poisson, le polisson, coup de théâtre dévore tout cru le bel animal, une cure de phosphore, ça peut pas faire de mal. Quand il mourra, quand la parque l'emmènera dans sa barque, en aval et en amont, truite, saumon, le crêpe à la queue sans doute, l'escorteront chagriné, laissant la rivière toute vide, désempoissonnée. L'or tombé dans la disette, repliant leurs épuisettes, tout penaud, toutes leurs nicheurs, les vrais pêcheurs rentreront chez eux bredouilles danser devant le buffet, se faisant traiter d'andouille par leurs compagnes bien faits.
On a souvent reproché à Georges Brassens, et surtout à sa musique, son côté soi-disant monotone. Erreur. On va vous prouver le contraire donc avec une chanson qu'on joue uniquement, Histoire de faussaire. Voilà, comme ne nous disent plus que Brassens n'était pas un musicien, et toc. Alain Jubert à la première contrebasse. Jacques Echen à la première guitare. Chansonnette à celle qui reste pucelle. Chanson inédite que j'ai le plaisir de déflorer ce soir devant vous. Jadis la mineure perdait son honneur au moindre faux pas. Ses mœurs non plus courtes de nos jours, c'est la gourde qui ne le fait pas. Toute ton école, petite rigole, qu'encore à 16 ans tu sois vierge et sage, fidèle à l'usage caduque à présent. Malgré les exemples de gosses plus amples, informés que toi, et qu'ont des pucelles avec leurs crécelles au bout de leurs doigts, chacun te brocarde de ce que tu gardes, ta fleur d'oranger. Pour la bonne cause et chacune glose de tes préjugés. Et tu sers de cible, mais reste insensible aux propos moqueurs, aux traits à la gomme. Comporte-toi comme te le dit ton cœur. Quoi que l'on raconte, y a pas plus de honte à se refuser, ni plus de mérite d'ailleurs, ma petite, qu'à se faire baiser. Certes, si te presse la soif de caresse, cours saute avec les Vénus de Panurge, va, mais si rien n'urge, faut pas t'emballer. Mais si tu succombes, sache surtout qu'on peut-être passer par 11 000 verges et demeurer vierge, paradoxe à part. Par 11 000 verges et demeurer vierge, paradoxe à part.
Alors dans la suite logique, et pour ceux qui l'auraient oublié, la première fille.
J'ai tout oublié, les campagnes d'Austerlitz et de Waterloo, l'Italie, le Prusse et l'Espagne, de Pontoise et de Landerneau. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a prise dans ses bras, la première étrangère à qui l'on a dit tu. Mon cœur, t'en souviens-tu comme elle nous était chère, qu'elle soit fille honnête ou fille de rien, qu'elle soit pucelle ou qu'elle soit putain, on se souvient d'elle, on s'en souviendra. La première fille qu'on a prise dans ses bras. Ils sont partis à tire-d'aile, mes souvenirs de la Susan, et ma mémoire est infidèle à Julie Rose.
faisait tout lison. Jamais de la fille on ne l'oubliera, la première fille qu'on a prise dans ses bras. C'était une bonne affaire, mon cœur t'en souviens-tu? J'ai changé ma vertu contre une prime verre. Que ce soit en grande pompe, comme les gens bien, ou bien dans la rue, comme les pauvres et les chiens. On se souvient d'elle, on s'en souviendra, de la première fille qu'on a prise dans ses bras. Toi qui m'as donné le baptême d'amour et le septième ciel, moi je te garde et moi je t'aime, dernier cadeau du Père Noël. Jamais de la fille on ne l'oubliera, la première fille qu'on a prise dans ses bras. On a beau faire le brave quand elle s'est mise nue, mon cœur t'en souviens-tu, on l'emmenait pas large. Bien d'autres sans doute depuis sont venus. Oui, mais entre toutes celles qu'on a connues, elle est la dernière que l'on oubliera, la première fille qu'on a prise dans ses bras.
Alors, la même fille, mais 25 ans plus tard. Misogynie à part, le sage avait raison. Il y a des emmerdants, on en trouve à foison. En foule, elle se presse. Il y a les emmerdeuses un peu plus raffinées, et puis très nettement au-dessus du panier, il y a les emmerderesses. La mienne a elle seule, surtout surenchérie, elle relève à la fois les trois catégories. Véritable prodige, emmerdante, emmerdeuse, emmerderait si tout. Elle passe, elle dépasse, elle surpasse tout. Elle m'emmerde, vous dis-je. Mon Dieu, pardonnez-moi ces propos bien amers. Elle m'emmerde, elle m'emmerde, elle m'emmerde, elle m'emmerde. Elle abuse, elle attige. Elle m'emmerde et je regrette mes belles amours avec la petite enfant de Marie que m'a soufflé l'évêque. Elle m'emmerde, vous dit, dis-je. Elle m'emmerde et m'oblige à me curer les ongles avant de confirmer son cul. Or c'est pas calipige. Et la charité seule pousse ma main résignée vers ce cul rabat-joie conique renfrogné. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde, je le répète. Et quand elle me tape sur le ventre, elle garde ses gants et ça me désoblige. Outre que ça dénote un grand manque de tact, ça le favorise pas tellement le contact. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde quand je tombe à genoux pour certaines dévotions qui sont bien de chez nous et qui donnent le vertige, croyant l'heure venue de chanter le credo. Elle m'ouvre tout grand son missel sur le dos. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde à la fornication. Elle s'emmerde avec ostentation. Elle s'emmerde, vous dis-je. Au lieu de s'écrier encore hardi, hardi, elle déclame du Claudel. Du Claudel, j'ai bien dit. Alors ça, ça me fige. Elle m'emmerde, j'admets que ce Claudel soit un homme de génie.
un poète immortel, je reconnais son prestige. Mais qu'on aille chercher dedans son œuvre pie un aphrodisiaque, non, ça c'est de l'utopie. Elle m'emmerde, vous dit, dis-je, elle m'emmerde, vous dis-je.
Nous sommes toujours très étonnés avec cette chanson parce que il y a quand même pas mal de femmes qui applaudissent. Y aurait-il du vrai? On va se faire pardonner un peu avec Saturne. Il est morne, il est taciturne. Il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne. Mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne. Mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose, pour se désennuyer un peu, il joue à bousculer les roses. Le temps tue le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses. Le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi, ma belle, qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est pas vilain, les fleurs d'automne, et tous les poètes l'ont dit. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Viens encore, viens, ma favorite. Descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces, et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de sablier. Et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller. Les sabots d'Hélène étaient tout crottés, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau.
Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée. Dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés, moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Le jupon d'Hélène était tout mité, les trois capitaines l'auraient appelé vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps la fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée. Sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité, moi j'ai trouvé des jambes de reine et je les ai gardées. Et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de m'y arrêter, dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée. Et dans le cœur de la pauvre Hélène, qui avait jamais chanté, moi j'ai trouvé l'amour d'une reine, et moi je l'ai gardée.